Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Capucine, atteinte de trisomie 21, veut travailler comme tout le monde. Elle est en recherche d'un vrai travail. Égérie nationale de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, elle revendique sa place. Cette jeune femme a un diplôme de palefrenier soigneur. Depuis, elle a enchaîné 8 stages et une année d'apprentissage dans un centre équestre, mais jamais un emploi de salarié. Et pourtant, la jeune femme est titulaire d'un permis de conduire depuis 3 ans. Elodie a 36 ans et elle est porteuse d'un handicap invisible. Elle raconte une carrière difficile, durant laquelle aucun employeur n'a adapté son poste à son handicap, bien qu'elle soit reconnue comme travailleuse handicapée. Quand on pense handicap, la plupart des personnes pensent à une personne en fauteuil roulant, à une personne avec une canne, et on a du mal à imaginer qu'un handicap puisse être invisible. À cause de ces idées reçues, j'avais en permanence droit à des réflexions bêtes. Mon comportement était toujours contrôlé, comme pour vérifier mon handicap. Si je disais que j'avais mal, mais que j'arrivais dans la journée à rire 2 minutes avec une collègue, on venait me demander des comptes. Comment est-ce que je pouvais rigoler alors que j'étais censée souffrir ? Depuis plusieurs années, le manque d'auxiliaires de vie ne cesse de s'accentuer. Une pénurie de main-d'œuvre aux conséquences désastreuses. À l'image de Marilyn, atteinte d'une maladie dégénérative, elle n'a plus personne pour l'accompagner alors qu'elle ne peut assurer seule ses besoins vitaux. Marilyn a pourtant alerté les services de l'État sur sa situation, mais aussi sur celle de l'ensemble des personnes dépendantes. Des personnes sont abandonnées, dorment dans leur fauteuil parce qu'on n'a pas pu venir les aider pour le coucher ou pour le lever. Ces personnes ne mangent pas grand-chose parce qu'il n'y a personne pour lui préparer le repas. Et ça a des conséquences sur leur santé. J'ai été embauchée dans un collège pendant 7 ans, confie Maxime, porteur d'une trisomie 21. Au restaurant scolaire, j'assure le service, la plonge et l'entretien des locaux. Le travail m'apporte la vie. Je ne veux pas rester sans travail. J'ai travaillé en restaurant scolaire en tant que stagiaire et en boulangerie-pâtisserie aussi, témoigne Victoria. On me dit toujours que je suis quelqu'un de très bien, mais que je suis trop lente. Les gens ont peur du handicap. Un accident survenu en milieu viticole m'a broyé le pied il y a 25 ans, raconte Jacques. Que faire de ma vie ? Tout bascule. Ce sont des moments durs où l'on va chercher l'énergie au fond de soi. J'ai une prothèse de sportif de haut niveau pour que cela tienne le coup. C'est difficile de se faire embaucher car les gens ont peur du handicap. C'est fatigant de devoir toujours montrer qu'on est capable comme les autres. Ma femme, Alix, a été séduite par ma force de caractère. Je conseille de bien s'entourer.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Le 3 décembre était donc la journée internationale des personnes handicapées. Le ministère de l'Éducation nationale se mobilise pour impulser et relayer des actions au sein des établissements scolaires. L'école d'ingénieurs CPE Lyon engage ses élèves ingénieurs dans une formation complémentaire au cursus ingénieur proposé par l'école. Lilou fait partie de ceci et elle se présente à nous.
À CPE Lyon, donc on est dans une école d'ingénieurs. Et en fait, dans notre école d'ingénieurs, on a la possibilité de faire un petit diplôme à côté donc, qui s'appelle la capacité au management du handicap. Et en fait, c'est de pouvoir avoir des clés pour le management en lien avec du coup, les personnes en situation de handicap. C'est une petite formation qu'on a à côté qui est optionnelle, donc on choisit si on a envie de la faire ou pas. Et du coup, moi, j'ai participé à cette formation qui se déroule du coup sur les 3 ans du cursus à l'école d'ingénieur. Donc là, pour l'instant, moi, je viens d'entamer ma 2e année. J'ai déjà fait toute une année avec ce cursus.
Les raisons de son engagement auprès de personnes en situation de handicap ?
Eh ben, en fait, j'avais quelqu'un qui était de qui j'étais très proche, en fait, qui a une petite sœur qui est handicapée. Et jusqu'à présent, j'avais jamais eu l'occasion de fréquenter des personnes en situation de handicap. Et comme je pense que certaines personnes peuvent avoir, j'avais un petit peu des clichés de me dire que c'était des gens qui peut-être avaient moins de, ils avaient des, juste en fait, on était différents. et que en fait en fréquentant cette jeune fille, je me suis rendu compte que c'était pareil, qu'il y avait aucune différence entre nous, et ça m'a donné envie du coup de faire ce diplôme là pour participer à pour comprendre et aider au mieux ces personnes en situation de handicap, et puis de juste pouvoir les aider, parce que il y a surtout par exemple pour les handicaps physiques, il va y avoir des choses, des aménagements qui sont pas forcément faits pour les aider sur certaines choses.
Avez-vous mis à profit votre formation ?
Oui, un petit peu. En fait, durant la première année, on a deux choix de missions différentes. Soit on va travailler au lycée Lamache, qui est un lycée pas loin de Villeurbanne, où en fait on peut donner des cours de soutien à des élèves qui ont différents handicaps. À savoir qu'on ne connaît pas les handicaps que les élèves ont s'ils n'ont pas souhaité nous le dire. Donc quand moi c'est la mission que j'ai choisie. L'autre mission c'était une mission avec des personnes qui avaient des problèmes de vue, voire qui étaient complètement aveugle, je crois. Donc là, c'était pour les aider à prendre en main un logiciel pour l'ordinateur, en fait, qui va lire, en fait, qui va lire tout ce qui est écrit sur l'ordinateur, etc. Et donc, moi, j'ai fait la mission de soutien. Et donc, cette mission-là, elle était très intéressante parce que on était avec des enfants qui ne nous parlaient pas forcément de leur handicap, et que du coup, il fallait que nous-mêmes, on s'adapte au fur et à mesure des séances pour comprendre qu'est-ce qui peut poser problème à tel élève, parce qu'on avait des petits groupes d'élèves, on en avait 3-4, mais du coup, chacun est différent, chacun a sa particularité, etc. Et donc, il fallait arriver à enseigner, à les aider, parce que on venait pour faire de l'aide au devoir ou du soutien sur des notions qu'ils n'avaient pas forcément compris. Et donc, il fallait arriver à voir leurs spécificités et comprendre comment est-ce que ces spécificités-là pouvaient poser problème dans le travail et arriver à leur donner
les clés,
petites solutions. Ah. Voilà, c'est ça.
Comment avez-vous géré vos rencontres avec les personnes en situation de handicap ?
Au début, on se rencontre, il faut arriver à établir un lien de confiance entre nous. On se revoyait toutes les semaines. Et puis, au fur et à mesure, on prenait des nouvelles, on demandait si on savait que, par exemple, moi je savais qu'ils avaient un DS la semaine suivante, et je leur demandais comment s'était passé le DS. Et puis, il y a un lien de confiance qui se fait aussi de leur côté, en voyant que ce qu'on travaille ensemble, ça porte leurs fruits, ils comprennent, et ils voient qu'on prend le temps de leur expliquer des choses que peut-être ils n'avaient pas eu le temps de comprendre. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très important, de prendre le temps avec chacun pour expliquer de 3, 4, 5 manières différentes s'il faut, mais de pas les laisser partir tant qu'ils ont pas compris. Et on avait normalement une heure et demie peut-être, et puis des fois on dépassait du temps parce que on était bien ensemble, on arrivait à avoir une bonne compréhension tous ensemble, et puis tant que la notion elle était pas comprise, on partait pas parce qu'on voulait que ça porte ses fruits. Et puis bien sûr, s'ils en avaient marre, on forçait pas, parce que c'est du soutien, on n'est pas là pour être des tyrans ou quoi que ce soit. Mais en général, ils étaient
demandeurs.
Ils étaient volontaires, et puis ils étaient contents parce que ils se rendaient compte que on arrivait à des choses et qu'il y avait des notions. Au début, ils viennent, il y a une notion qu'ils n'ont pas compris, et ils ressortent, on a compris la notion, on fait plaisir.
Cet échange a-t-il été valorisant pour chacun d'entre vous ?
Oui, aussi. C'est vrai que c'est toujours agréable de se rendre compte que les explications elles ont porté leurs fruits, et puis que on est un petit peu fiers aussi de voir que les explications qu'on leur a portées ça leur a servi et qu'ils ont réussi. On est à la fois fiers de soi d'avoir réussi à expliquer, mais aussi fiers d'eux qu'ils ont réussi à appliquer les choses qu'on leur a données.
Quel niveau scolaire avaient les personnes en situation de handicap auxquelles vous apportez votre soutien ?
Alors mes élèves à moi n'étaient pas encore spécialisés parce qu'ils étaient en seconde. Mais il y avait des premières et des terminales, et je crois qu'ils se spécialisaient, mais je ne saurais plus vous dire, parce qu'en fait on traitait maths, physique, chimie, et en fait le reste, la filière, je ne sais pas, parce que c'était pas vraiment des choses qui étaient importantes pour nous. Nous on leur demandait juste qu'est-ce qu'il y avait comme souci et on regardait directement sur le cours, la filière n'avait pas trop d'importance.
Le trio infernal, là. Maths, physique, voilà. Chimie, pour certains exactement. D'entre nous, on s'en rappelle encore. Hein. Merci beaucoup en tous les cas, Lilou, c'était très agréable de vous avoir et puis de nous donner ce témoignage qui, j'espère, en fera d'autres, bien sûr. Merci.
Bah, de rien, avec plaisir.
Journée donc internationale des personnes handicapées ce 3 décembre dernier, l'école d'ingénieurs CPE Lyon connaît un engagement record de ses élèves ingénieurs dans la capacité en management du handicap, une formation complémentaire au cursus ingénieur. La formation confronte les élèves ingénieurs à des situations réelles et fait appel à l'intervention d'experts en situation de handicap pour leur apprendre à tenir compte des besoins des personnes en situation de handicap dans leur future vie professionnelle. Et la page sportive avec Eddy. Bonjour Eddy. Nos équipes de football.
Bonjour.
Oui, bonjour Eddy. Nos équipes de football retrouvaient le championnat ce week-end. Alors, comment se sont-elles comportées? Dites-nous tout.
Alors, comment s'est-elle comportée, Sylvie? Parce que il se trouve que le Gol FC n'a pas pu disputer sa rencontre du championnat national. La pelouse du stade Ludovic Juli de Chasselet était gorgée d'eau vendredi soir. La rencontre donc face au SCO Dijon a été reportée. En revanche, les Tigres du Football Club Villefranche-Beaujolais ont enchaîné avec encore un succès 2-0 et cette fois à l'extérieur. C'était à Avranches, non loin du Mont-Saint-Michel, où ils ne sont pas allés faire du tourisme, nos Tigres, parce qu'ils ont été une nouvelle fois très sérieux dans un match maîtrisé, quasiment de bout en bout. Ils ont contenu les assauts de l'équipe normande d'abord, et puis à la 70e minute, la lumière est une fois de plus venue de Claudine Builly qui marque son sixième but de la saison pour les Tigres, servi par Sidibé. Alors en plus, c'est un magnifique but avec une magère pour finir et mettre le ballon dans les filets. Un peu plus tard, donc dans le temps additionnel, Dassiemo Maille double la mise, 2-0 donc pour les Tigres qui reprennent leur place sur le podium du championnat national 1 après cette 15e journée. On est fiers et heureux de nos performances, de nos caladois. Voilà pour les stades, parce qu'on n'a pas pu jouer au rugby pour les mêmes raisons, évidemment. Du côté de Belleville, la rencontre de Fédéral 3 n'a pas pu se disputer dimanche 3 décembre et elle est reportée.
Quels sont les autres résultats principaux enregistrés cette semaine?
Alors on a joué au basket et comme on pouvait peut-être un peu le craindre, hélas, Beaujolais Basket a perdu pied et perd son invincibilité à domicile samedi 2 décembre face aux, attention, tenez-vous bien, aux Underdogs, rien que ça, de l'équipe de Sorgues, équipe du Vaucluse hein, bien sûr, qui est venue et qui a réussi, pardon pour le jeu de mots, à museler véritablement nos shooters Beaujolais depuis le milieu de la deuxième mi-temps là, et c'est un revers, 71-83 pour Beaujolais Basket, laminé par les joueurs intérieurs vauclusiens donc, et c'est une bien mauvaise opération. Pourtant, d'autres leaders de la poule de National 2 ont eux aussi été battus ce week-end, mais hélas, tout ça a créé un resserrement énorme et il y a maintenant 6 équipes au même niveau à l'issue de la 11e journée. Il ne reste plus que 2 matchs aller, donc c'est vraiment un championnat où on ferraille dur chaque semaine et il va falloir que Beaujolais Basket trouve des solutions pour ne pas continuer à engranger hélas de mauvais résultats. En National 3, la Stara n'était pas favorite en Alsace du côté du Mulhouse-Pfastatt et elle a quand même résisté, 96-89 effectivement, mais pour la Stara, c'est pas une nouvelle fois pas encore bien brillant, 10e du classement là encore après la 11e journée. Et puis histoire de bien plomber l'ambiance, je vous annonce encore 2 défaites pour nos équipes de volleyball à domicile à l'Escale d'Arnas dimanche 3. Alors on avait D'ailleurs, c'était au Palais des Sports de Villefranche, vous voyez, comme quoi. On avait donc les féminines, tout d'abord, qui ont fait de leur mieux. Bon, elles n'ont pas été dans le coup dans la première manche, mais elles étaient revenues et elles échouent de peu. Elles perdent de 2 petits points au quatrième set pour perdre donc ce match 3-7 à 1. C'était contre La Rochette, une équipe bien classée. Mais elles restent au sixième, milieu du tableau. Et puis les masculins, National 2, pour leur part, eh bien, ils recevaient une belle équipe troisième hein, du classement, le Grenoble Université Club. Mais hormis effectivement la première manche, ils ont été largement bousculés. Ils s'inclinent en 4-7. Et attention, ils régressent huitième. Ils sont un peu sous la menace là. Dorénavant, ils n'ont gagné que 2 fois cette saison. Voilà, pour des résultats vraiment très très maussades hein, cette semaine.
Et enfin, quels sont les temps forts du premier week-end sportif de décembre ?
Il ne sera pas très copieux parce qu'on n'a plus de représentants en Coupe de France de football pour le 8e tour, donc on ne jouera pas au foot. En revanche, on va jouer au rugby, si évidemment l'état des pelouses le permet. Dimanche 10 décembre, 15h15, le CS Villefranche en Fédéral 1 reçoit un rival au classement, Drancy-Saint-Denis Rugby 93. Match entre deux équipes qui sont dans la deuxième moitié de tableau et le CSV a absolument besoin de points à domicile. Et le RC Belleville, lui, sera à la même heure, à Jomard-Durie, toujours dimanche, face à Viria. C'est un derby, effectivement, entre deux équipes très proches au classement. Le RCB est sixième et Viria est juste au-dessus. On jouera au handball, du côté uniquement des masculins, puisque pour les violettes de Saint-Julien-de-Nicéglézé, rendez-vous maintenant en 2024. Mais l'Entente Beaujolaise, donc l'équipe caladoise, elle reçoit à l'Escale d'Arnas à 20h30, samedi 9 décembre, une équipe de Saint-Priest. Donc là encore, c'est un derby. Et là encore, c'est important, les deux équipes sont très proches dans la deuxième moitié du tableau en National 2. On jouera au basket. Alors Beaujolais Basket va essayer de se refaire une santé à Marseille, au SMUC, samedi soir, 20h. Mais bon, ça va pas être facile non plus, encore une fois, parce que c'est tellement serré dans cette poule de National 2 que tout est possible. La Estarar, elle sera à domicile à Robert Maga à 20h pour accueillir Saint-André-les-Vergers qui est au coude à coude au niveau du classement de National 3. Et enfin, on jouera au volleyball encore ce week-end. Dimanche à 14h, les féminines du VBVB se rendent une nouvelle fois en Alsace pour aller jouer contre Kingersheim qu'elle précède au classement. Alors, pourquoi pas être ambitieuse? Et les masculins, eux, en National 2, se rendent sur la Côte d'Azur. Enfin, c'est pas vraiment la Côte, d'ailleurs, de ce côté. C'est le Languedoc-Roussillon, puisqu'ils vont à Agde, qui est juste derrière eux au classement. Victoire à l'extérieur, pas impérative, mais en tout cas nécessaire pour le VBVB à 15h dimanche. Voilà pour le programme.
Merci, Adi.
Bonne semaine.
Info locale et régionale. C'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade. Ma radio.